Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Voici les titres de votre journal. Et à la une, l'identification de l'assaillant de Bordeaux est en cours. Selon la procureure de la République, il s'agirait d'un homme de 25 ans de nationalité afghane. Mercredi soir, une attaque au couteau a fait un mort et un blessé grave. Vous entendrez dans un instant les précisions de la procureure de la République de Bordeaux. La demande de référendum sur l'immigration a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Elle avait été soumise par le parti Les Républicains. Un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD révèle que près de 7 Français sur 10 sont favorables à un référendum sur la politique migratoire. Les détails de cette enquête d'opinion dans ce journal. Le coût des émeutes en France est estimé à 1 milliard d'euros. Ce chiffre a été communiqué ce jeudi par la commission des lois du Sénat. Lors des violences urbaines, plus de 2500 bâtiments avaient été incendiés ou dégradés. Notre journaliste économie vous dévoilera les chiffres dans le détail. Et puis au Proche-Orient, l'Iran menace Israël de lancer une attaque massive et imminente. Cela fait suite à une frappe meurtrière contre le consulat iranien à Damas en Syrie. Les États-Unis ont une nouvelle fois assuré leur soutien à l'État hébreu. Vous entendrez dans ce journal les autorités israéliennes et le président des États-Unis. À la une donc, la procureure de la République de Bordeaux s'est exprimée au lendemain de l'agression au couteau qui a donc fait un mort. L'assaillant, abattu par la police, aurait reproché à deux individus de boire de l'alcool lors de la fête de l'Aïd. Son identification est en cours. Il s'agirait d'un homme de 25 ans de nationalité afghane. Deux enquêtes ont été ouvertes après cette attaque, dont une par l'IGPN. Le résumé de cette conférence de presse, signé Mickaël Dos Santos.
Il est aux alentours de 19h30 mercredi quand deux ressortissants algériens consomment de l'alcool sur les quais de la Garonne. Un homme, vêtu d'un camis et d'un kéfier qui couvre son visage, s'approche d'eux et les invective.
L'agresseur s'en serait pris à lui avant de leur reprocher à l'un et à l'autre, dans un français approximatif, de boire alors que c'était l'Aïd.
L'agresseur les frappe, s'éloigne mais reçoit des canettes de bière. Il revient et les poignarde avec une arme de type couteau de chasse. L'un, âgé de 37 ans, hébergé par France Terre d'Asile, décède. L'autre, un SDF de 26 ans, est blessé. Ses jours ne sont plus en danger. Après cette attaque, l'assaillant poursuit sa route. Trois policiers lui demandent de lâcher son arme à trois reprises. Il refuse.
Devant l'attitude menaçante de l'assaillant, l'un d'entre eux faisait alors usage de son arme, type fusil d'assaut HKG-36, et neutralisait l'agresseur.
Quelques minutes avant cette attaque, l'assaillant aurait provoqué une altercation pour un motif a priori similaire.
L'auteur aurait pris à partie deux individus parce qu'ils buvaient du rosé en ce jour d'Aïd. S'en serait suivi alors un coup de poing et un coup de coude avant que l'agresseur n'exhibe un couteau en leur demandant de venir se battre.
Un assaillant déjà recensé dans une base de données européenne de demandeurs d'asile.
Grâce à la base de données Eurodac, l'auteur est à ce jour en cours d'identification. Il serait d'origine afghane et âgé de 25 ans.
Selon les premiers éléments de l'enquête, la piste terroriste est a priori écartée.
Et pour être tout à fait complet, l'assaillant aurait obtenu le droit d'asile en 2021 sur le territoire français. Donc, au lendemain de l'attaque du 7 octobre en Israël, l'imam de Beaucaire avait appelé à tuer les juifs. Nous l'avons appris ce jeudi, poursuivi pour apologie du terrorisme. Il a été condamné en appel à un an de prison avec sursis. Il a été également interdit d'exercer la fonction d'imam. C'était une décision du Conseil constitutionnel attendue par le parti Les Républicains. Les sages ont rejeté ce jeudi le projet de référendum sur l'immigration qui était donc souhaité par le parti d'Éric Ciotti. Cette initiative a été jugée contraire à la Constitution. Et pourtant, 69% des Français sont favorables à un référendum sur la politique migratoire, selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. Les précisions de cette enquête d'opinion dans ce sujet de Sarah Fenzari.
Le projet de référendum sur l'immigration demandé par les Républicains, c'est non. Après un premier rejet en décembre du projet de loi immigration, le parti d'Éric Ciotti fait face à un nouvel échec. Les sages ont jugé la manœuvre non conforme à la Constitution. Pourtant, les Français ne sont pas contre, au contraire. D'après un nouveau sondage CSA pour CNews Europe 1 et le Journal du Dimanche, 69% d'entre eux sont en faveur d'un référendum sur la politique migratoire. La gauche y est favorable à 56%, le centre à 53% et la droite à 87%. Des Républicains au Rassemblement National, la droite forme un bloc uni. Mais à l'inverse, à gauche, la directrice de pôle à l'institution CSA révèle des zones de fracture.
Les catégories populaires, elles sont aujourd'hui 74% à souhaiter la tenue de ce référendum versus 62% pour les catégories dites supérieures, c'est-à-dire les cadres ou les professions libérales. Et il y a fort à parier que dans la gauche radicale, et notamment au Parti communiste, il y a certainement une forte proportion de gens qui sont issus en fait des catégories populaires. Et c'est ça qui explique en fait qu'au sein de la gauche radicale, aujourd'hui, il y a une forte demande de ce référendum sur la politique migratoire.
Quoi qu'il en soit, et sur le plan strictement politique, ce nouveau refus aura de quoi nourrir le récit du président des Républicains qui, à l'unisson du Rassemblement national, demande une révision constitutionnelle pour permettre un référendum sur l'immigration.
Mardi à Romans-sur-Isère, un jeune homme de 15 ans a reçu un coup de couteau mortel alors qu'il s'interposait dans une altercation entre plusieurs adolescents. Et deux jours après ce meurtre, quatre suspects ont été placés en garde à vue. L'enquête a été requalifiée en assassinat. À Reims, mercredi, un adolescent de 15 ans a été retrouvé mort dans les toilettes de son lycée. Ce jeudi, le procureur de la République a expliqué qu'aucun fait de harcèlement n'a été démontré à ce stade de l'enquête. On écoute les précisions du procureur de la République de Reims.
Ce jeune homme se trouvait en internat et juste avant le repas, en sortant des études, il a demandé à aller aux toilettes vers 18h45. Ne le voyant pas revenir, la responsable de l'internat est montée elle-même voir ce qui se passait. Elle l'a entendu tousser et vomir et elle a envoyé un des élèves pour voir ce qui se passait. Comme il n'avait pas de réponse, il a appelé cette dame qui est montée, qui a ouvert la porte et qui l'a découvert sans vie. L'autopsie a eu lieu ce matin et si elle laisse des zones d'ombre, elle a tout de même éliminé déjà toute intervention extérieure ayant pu causer le décès. En revanche, il n'a pas été possible de déterminer avec exactitude les causes de la mort.
Dimanche, 70 kilos de cannabis et près d'un kilo de cocaïne ont été saisis au domicile de la mère d'Avallon. Elle a été mise en examen pour trafic de stupéfiants et placée en détention provisoire. Quatre personnes ont également été incarcérées dans cette affaire. Les précisions de notre envoyé spécial dans Lyon, Thibault Marcheteau.
C'est aux alentours de 20h45 hier et après 72 heures de garde à vue que l'on a appris la décision du juge des libertés et de la détention qui était de placer Djamila Absaoui, la mère d'Avallon, en détention provisoire et de la mettre en examen. La mairesse a donc passé hier soir sa première nuit derrière les barreaux avec quatre autres personnes, dont ses deux frères aussi inculpés dans cette affaire. Cette décision, elle fait suite à la perquisition du 7 avril dernier et notamment la perquisition de la mairie mais également du domicile de la mère d'Avallon et la saisie notamment de 70 kilos de cannabis, mais également un petit peu moins d'un kilo de cocaïne, des lingots d'or, mais également une importante somme d'argent en liquide. Son avocat s'est exprimé directement après cette décision à la presse locale et a affirmé vouloir donner de nouveaux éléments pour espérer une libération rapide de sa cliente. La présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a également suspendu quelques minutes plus tard après cette décision la délégation de Djamila Absaoui au conseil régional.
Et puis ce chiffre, 1 milliard d'euros, c'est le coût des dégradations liées aux émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Un chiffre communiqué par la commission des lois du Sénat ce jeudi. Lors de ces violences urbaines, plus de 2500 bâtiments avaient été incendiés ou dégradés en France. Les détails, c'est avec notre journaliste économie à CNews, Lomi Guillaume.
Selon les sénateurs, les émeutes de juin dernier ont provoqué pour 1 milliard d'euros de dégâts, dont 793 millions qui ont été déclarés aux assurances, ce qui correspond à un peu plus de 16 000 sinistres. En effet, tous les dégâts n'ont pas pu être pris en charge, notamment parce que tous les biens publics ne sont pas assurés. Mais c'est un montant 4 fois supérieur à celui des émeutes de 2005. Au total, selon les sénateurs, 2508 bâtiments ont été incendiés ou dégradés, dont 273 bâtiments liés aux forces de l'ordre ou encore 243 écoles. Plus de 1500 commerces ont été pillés ou vandalisés, dont 436 bureaux de tabac, 370 banques et 118 magasins d'optique. Après ce constat, dans leur rapport, les sénateurs font aussi des propositions. D'abord pour moderniser et adapter les moyens des forces de l'ordre afin de mieux réagir face à des phénomènes de guérilla urbaine. Et puis surtout, les sénateurs proposent et suggèrent de créer l'équivalent du fonds d'indemnisation des catastrophes naturelles pour couvrir les dommages et les dégâts résultant d'émeutes d'ampleur nationale. En clair, ce que proposent les sénateurs, c'est d'ajouter quelques euros à votre prime d'assurance ou à celle d'un commerçant pour couvrir le risque d'émeute, mais pas sûr que les Français soient ravis à l'idée de devoir payer pour les émeutiers.
Alors que la légalisation du cannabis fait débat en France, eh bien le gouvernement se penche sur le sujet des tests salivaires dans la rue. Le but serait de pouvoir détecter les fumeurs de cannabis et ainsi pouvoir les sanctionner. Alors concrètement, une telle mesure est-elle applicable sur notre territoire? Écoutez la réponse de Georges Fenech, qui est ancien magistrat.
C'est une idée, on peut dire, assez extravagante, qui évidemment ne peut pas être appliquée. En dehors du fait qu'il n'est pas souhaitable de vivre dans une société de contrôle et de surveillance généralisée, ce serait une formidable atteinte à la liberté d'aller et venir qui est garantie par l'article 2 et 3 de la Déclaration des droits de l'homme, donc de la Constitution. Ce serait un texte très anticonstitutionnel.
Dans le reste de l'actualité, la colère gronde au sein des agents pénitentiaires du centre de détention de Salon-de-Provence. Depuis le début de l'année, ils dénoncent un manque d'effectifs et une situation dangereuse pour eux, mais comme pour les détenus. Regardez ce reportage signé Stéphanie Rouquet.
Dans le centre de détention de Salon-de-Provence, les agents pénitentiaires sont à bout. Sur les 137 postes nécessaires, seulement 117 sont pourvus et les arrêts maladie se multiplient. Alors leur quotidien devient ingérable.
Des fois, vous avez deux agents, voire trois agents maximum pour gérer 200, 250 détenus. C'est très dangereux. C'est simplement dangereux. C'est même pas une question de gestion, c'est du danger. Du danger pour le personnel, mais du danger aussi pour les personnes qui sont placées sous notre responsabilité.
La direction interrégionale des services pénitentiaires confirme le problème de sous-effectif et assure que de nouveaux agents renforceront les équipes dès le mois de juillet.
Les 12 agents qui doivent arriver justement au mois de juillet, ça ne comblera pas. Chaque jour, on crée un drame. Chaque jour, on se dit, est-ce que l'irrémédiable va arriver ? La violence entre détenus est en constante évolution. Les armes blanches, artisanales, je précise, sont en très grand nombre. Et aujourd'hui, celles-ci, elles peuvent permettre à effectuer du racket, à violenter, à faire du chantage aux détenus.
Ces agents subissent quotidiennement des agressions verbales et régulièrement des agressions physiques. Il y a quelques mois, l'un d'eux avait été violemment frappé par un détenu. Sa mâchoire avait été fracturée.
Et puis cette information importante dans ce journal, la campagne de déclaration des impôts est enfin ouverte. Vous avez jusqu'au 6 juin pour déclarer vos revenus pour l'année 2023. Et pour la première fois, il sera possible de le faire sur smartphone ou tablette via une application dédiée justement aux impôts. Emmanuel Macron a par ailleurs exclu l'hypothèse d'une augmentation des impôts, et ce malgré la dégradation des comptes publics en France. On va écouter le président de la République.
La ligne, elle est simple, elle a été réaffirmée. Un, on garde le cap. Plein emploi, réindustrialisation, réarmement de nos services publics. Deux, on ferme tout de suite l'hypothèse de dire qu'on va régler ce choc conjoncturel par plus d'impôts. Maladie française, ça enlèverait de la confiance. Garde la confiance des ménages, des entreprises, de nos partenaires. Trois, on est responsable, ce choc conjoncturel, on doit y répondre de manière appropriée et tout de suite. Ça a été les premières économies sur le financement de l'État. Et c'est la deuxième partie, après le même taux d'effort, d'économie pour tenir un déficit de 5,1 cette année.
Le chef de l'État qui s'exprimait dans le cadre d'un déplacement en Dordogne, il a posé la première pierre d'une usine de poudre pour obus à Bergerac alors que le soutien militaire à l'Ukraine s'intensifie. Le président de la République appelle à un effort durable et des industriels de l'armement. Je vous propose de le réécouter une deuxième fois.
Depuis l'agression russe en Ukraine, une nouvelle étape a été déclenchée. Nous avons décidé de rentrer dans cette économie de guerre. D'abord pour fournir ce que nous pouvions fournir aux Ukrainiens pour se défendre. Puis on voit bien que le monde est en train de changer et que nous avons besoin tous de produire davantage, à la fois pour soutenir l'Ukraine face à cette agression et pour nous protéger nous-mêmes. Cette dynamique, elle est lancée partout en Europe et à travers le monde. La France a une force, son industrie, elle a une force, son armée. Et donc cette économie de guerre, elle est aussi pour nous. Je préfère la paix, mais l'industrie, la réindustrialisation, c'est bon pour l'emploi. Et dans les industries, il y a des industries de défense.
Et la trajectoire de la LPM sera respectée malgré le contexte budgétaire actuel?
Bien sûr, et c'est ce que nous faisons depuis le début. Et vous savez, je n'ai pas attendu cette guerre pour prendre mes responsabilités sur les sujets de défense.
Autre déplacement de l'exécutif, celui de Gabriel Attal en déplacement au Canada. Le Premier ministre français et son homologue canadien Justin Trudeau ont défendu ensemble le CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Les deux hommes se sont dit confiants pour la suite de cette entente commerciale et Gabriel Attal a évoqué un accord gagnant pour l'Europe et pour la France. On écoute le Premier ministre.
Moi, je veux redire les choses de manière très claire. Le CETA, c'est un accord gagnant-gagnant entre la France et le Canada, entre l'Europe et le Canada. C'est un accord gagnant-gagnant et on le voit aujourd'hui, les chiffres ne mentent pas. Depuis qu'il a été signé, depuis qu'il est en vigueur, c'est-à-dire depuis à peu près 6 ans, les échanges entre nos deux pays ont progressé de plus d'un tiers.
Actualité au Proche-Orient à présent, l'Iran menace de lancer une attaque importante contre Israël. Cela fait suite à une frappe meurtrière contre le consulat iranien à Damas en Syrie. Daniel Agari, porte-parole de Tzal, affirme que l'armée israélienne se tient prête face à ces menaces.
Nous sommes prêts et en état d'alerte, tant sur le plan défensif qu'offensif, et nous saurons faire face à toute menace.
Et face à cette situation, Joe Biden assure le soutien inébranlable des États-Unis à l'État hébreu. On écoute donc ensemble le président des États-Unis.
Comme je l'ai dit au Premier ministre Benjamin Netanyahou, notre engagement pour la sécurité d'Israël face à ces menaces de l'Iran et de ses alliés est inébranlable. Je répète, inébranlable. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour protéger la sécurité d'Israël.
Un invité exceptionnel ce jeudi sur CNews, le président de la Knesset, Amir Ohana, s'est exprimé sur la situation au Proche-Orient. Aujourd'hui, 133 otages sont toujours détenus dans la bande de Gaza. Et parmi eux figurent 3 Français. Difficile pour les autorités israéliennes de savoir combien sont encore vivants aujourd'hui. Mais le président de la Knesset l'a affirmé sur notre antenne, plus de la moitié d'entre eux le sont encore.
Nous faisons tout ce que nous pouvons pour les libérer. Et nous le faisons ça avec de 2 manières. Premièrement, il y a un vecteur militaire. Et deuxièmement, il y a un vecteur diplomatique. Et nous pensons que... en exerçant ce type de pression, nous pouvons vraiment mettre le Hamas contre le mur pour qu'ils finissent par avoir un accord avec nous. Alors sur ces 33 otages, nous savons que certains sont vivants et que d'autres sont morts. Nous pensons que plus de la moitié sont toujours vivants, pas bien plus que la moitié, et non pas la grande majorité, mais en tout cas la majorité. C'est ce que nous pensons et nous opérons comme cela.
Et enfin, nous avons appris ce jeudi le décès de l'ancienne superstar du football américain, O.J. Simpson. Il nous a quittés à l'âge de 76 ans. Son procès pour double meurtre en 1995 avait captivé le monde entier avant son acquittement. O.J. Simpson était atteint d'un cancer. Il était en liberté conditionnelle depuis 2017. Entre procès, prison et football, il a également eu une carrière d'acteur où il apparaît dans une dizaine de films et de séries. Vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football au lendemain de la désillusion parisienne face à Barcelone. L'OM affrontait Benfica en quart de finale aller de la Ligue Europa. Et malheureusement pour les Marseillais, ils se sont inclinés 2-1 à Lisbonne. Une défaite qui oblige les Phocéens à s'imposer jeudi prochain au stade Vélodrome. Récit de cette rencontre, Vincent Petitpès.
Ils ne sont pas de trop pour tenter de créer l'exploit. Quelques heures avant la rencontre, les supporters marseillais ont été autorisés à investir les Stadios d'Alus. Et rien qu'avec eux, les Benfiquistes en prennent plein les yeux. Mais un quart de finale aller de Ligue Europa ne se gagne pas qu'en tribune. André El Di Maria s'applique, au contraire d'Alexander Ba, gêné par le retour de Chancel Bemba. Une première alerte qui sera la seule avant la sanction.
Avec Rafa Silva qui joue sur Neres. Neres qui n'hésite pas à dézoner, hein, se retrouver... et... vers le côté droit, Tenkstedt qui va lui redonner. Oh, ce but ! Avec un maximum de réussite, mais beaucoup de talent. Et Marseille est tombé dans le piège.
Le piège d'un Benfica réaliste et d'un Rafa Silva imprenable. Deuxième coup dur pour la défense marseillaise avec la blessure à la cheville de Quentin Merlin. L'OM s'expose et la défense à 5 semble dépassée. En début de seconde période, Di Maria lance le contre et réussit le geste juste. L'Argentin, si souvent décisif face à Marseille, avec 6 buts et 6 passes décisives en 18 matchs. Marseille n'a pas cadré un tir, mais avec le meilleur buteur de l'histoire de la compétition dans ses rangs, il peut garder espoir.
Aubameyang face à Troubille !
Oui, oui !
Et Marseille qui revient dans ce match !
10e but de la saison en C3 pour Pierre-Emerick Aubameyang, et pas le moins important. Relancé, l'OM est enfin dangereux avec cette occasion pour Amin Harit. Trop peu pour espérer gagner, ce qu'aucun club français n'a fait ici. Alors pour passer, il faudra le faire jeudi prochain au Vélodrome.
Écoutez, Marseillais, on ne se laisse pas abattre. Bien au contraire, les esprits sont déjà dirigés vers le retour jeudi prochain. On écoute Geoffrey Kondogbia.
On ne va pas se mentir. Malgré la défaite, c'est, on va dire, un résultat plutôt positif.
quand on sait qu'on a le match retour à la maison. Donc voilà, on ressort satisfait à moitié, même si ça reste une défaite.
Allez, on jette un coup d'œil sur les autres résultats de la soirée avec une énorme surprise, la défaite à la maison du grand favori Liverpool. Battu très sèchement 3-0 par l'Atalanta, déjà inarrêtable en championnat, Leverkusen a pris une belle option en gagnant 2-0 face à West Ham. Enfin, la Roma s'est imposée 1-0 à Milan dans le bras de fer 100% italien. Football toujours avec la Ligue Europa Conférence, troisième échelon européen. Et malheureusement, pas plus de succès pour les clubs français puisque Lille s'est incliné 2-1 au Villa Park d'Aston Villa. But inscrit par Oli Watkins et John McGinn, mais les Dogs peuvent encore y croire grâce à la réduction de l'écart en toute fin de match de Diakité. Les nordistes devront s'imposer jeudi prochain au stade Pierre Mauroy. Allez, voyeurs, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. L'identification de l'assaillant de Bordeaux est en cours, selon la procureure de la République. Il s'agirait d'un homme de 25 ans de nationalité afghane. Mercredi soir, une attaque au couteau a fait un mort et un blessé grave. Vous entendrez dans un instant dans notre prochaine édition les précisions de la procureure de la République de Bordeaux. Je vous souhaite bien sûr une excellente nuit à toutes et à tous sur notre antenne et je vous retrouve donc dans un instant pour une nouvelle édition.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.